merci d'être fidèle à la Radio du Monde. Il est 11h30 en temps universel, 14h30 à Maputo.
Afrique Midi.
Et comme promis, Afrique Midi avec vous, Nemo Ampis, bonjour.
Bonjour Victoire, bonjour à tous. C'est ce dimanche au Sénégal que démarre la campagne électorale pour les législatives anticipées. Du 17 novembre prochain, les partis politiques lancent d'ores et déjà leur première force dans la bataille. Nous sommes à Dakar dès le début de ce journal. Les derniers développements de la situation au Mozambique, quelques jours après la proclamation des résultats de la présidentielle, l'opposant Venancio Mondlane appelle à l'union, vous l'entendrez. Le Soudan, toujours en proie à la guerre entre armées régulières et paramilitaires FSR, ces derniers ont pris l'assaut de plusieurs villages du centre du pays dans l'état de Jazira. Des sources locales évoquent des centaines de morts et l'impossibilité d'évacuer les blessés et d'accéder au terrain. Du sport dans ce journal, on brosse le portrait de l'un des plus jeunes entraîneurs du continent. Alexandre Lafitte est sur le banc du stade d'Abidjan et compte bien le faire briller. Et puis de la musique avec le dernier titre du rappeur ghanéen Manifest, déjà un carton à l'international. Top départ ce dimanche pour la campagne électorale au Sénégal en vue des législatives anticipées du 17 novembre prochain. Dès aujourd'hui, les états-majors politiques sont en ordre de bataille. La campagne s'étend sur 3 semaines et 41 listes sont en compétition pour 165 députés à élire après la dissolution le 12 septembre dernier de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'État. À Dakar, Birahim Touré.
La caravane rose du PASTEF va partir du siège du parti du président Bassirou Diomaye Faye pour se terminer à Sacré-Cœur, à quelques pas du domicile d'Ousmane Sonko, tête de liste du parti et premier ministre du Sénégal. Ce dernier sera, lui, à Tiwawan, la cité religieuse dans la région de Thiès à l'est de Dakar. Le parti au pouvoir PASTEF entend marquer par sa présence ce début de campagne électorale, mais devra compter avec l'opposition. Sam Sakadou, une des coalitions de l'opposition dans laquelle on retrouve Khalifa Sall, Bougan Gaydani en prison ou encore l'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz, va démarrer, lui, par un grand meeting dans la capitale Dakar. D'autres candidats ont décidé d'aller à l'intérieur du pays pour démarrer. Le cas, par exemple, de Abdoulaye Sila, un riche homme d'affaires qui sera à Mbaké, à l'entrée de la ville de Touba. Djegan Sen, un ancien ministre de Maître Ouad et leader du Renouveau, sera de son côté à Golfe Sud, dans la banlieue de Dakar. Objectif du parti au pouvoir, avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer quelques 83 projets de loi, 294 projets de décret et 110 projets d'arrêté annoncés en juillet dernier par le premier ministre Ousmane Sonko. L'opposition, elle, se bat pour éviter que le PASTEF ait les pleins pouvoirs. Birahim Touré, Dakar, RFI.
Après l'Angola et l'Égypte, c'est en Afrique du Sud que le nouveau ministre ukrainien des Affaires étrangères est attendu pour conclure la partie africaine de sa tournée qui vise à renforcer le dialogue avec les pays du Sud. Andrei Sibiya est également passé par la Turquie, par Oman. Il doit s'entretenir ce dimanche et demain avec des représentants du secteur économique, avec la communauté ukrainienne locale et avec son homologue à l'heure où l'Afrique du Sud a récemment réaffirmé ses liens avec la Russie. À Johannesburg, correspondance de Claire Bargelès.
Cette visite intervient seulement quelques jours après le déplacement du chef de l'État sud-africain à Kazan, en Russie, à l'occasion du sommet des BRICS. Cyril Ramaphosa y avait alors qualifié Moscou d'ami et d'allié précieux, tandis que Vladimir Poutine s'était réjoui des sphères prometteuses en matière de coopération. Les échanges désormais avec la diplomatie ukrainienne sont donc très représentatifs de la politique de non-alignement défendue par l'Afrique du Sud depuis le début de la guerre et de sa volonté d'entretenir le dialogue avec les deux camps afin de rester une force de négociation. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit Pretoria à mener une mission de paix africaine l'année dernière aux côtés des chefs d'État du Sénégal, de la Zambie et des Comores. Andrei Sibiya devrait insister auprès des officiels sud-africains sur le plan pour mettre fin à la guerre conçue par le président ukrainien. Et les échanges devraient également porter autour d'une possible future visite d'État en Afrique du Sud de Volodymyr Zelensky. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
RFI, 14h34 à Maputo, au Mozambique. 4 jours après la proclamation des résultats de la présidentielle, les partis d'opposition vont-ils s'unir? C'est en tout cas l'appel lancé par Venancio Mondlane, candidat malheureux du scrutin, en tout cas selon les chiffres de la commission électorale. Dans une vidéo publiée hier sur Facebook, le chef du parti Podemos exhorte les partis d'opposition à s'unir contre le Frelimo au pouvoir qui, de son côté, propose un dialogue. Bonjour Christina Okello.
Bonjour Nemo.
C'est un geste qui pour le moment ne trouve pas d'écho favorable.
Dialoguer avec les Frelimo, c'est pactiser avec le diable. C'est en ces termes cinglants que Venancio Mondlane, leader de Podemos, a répondu au parti au pouvoir. Il affirme vouloir privilégier la voie juridique pour résoudre la crise post-électorale déclenchée par l'annonce de la victoire de Daniel Chapo. Une victoire que le Podemos continue de contester, dénonçant un processus électoral truqué en faveur de Frelimo. On écoute Venancio Mondlane.
Le président de la commission électorale, Carlos Mazzin, a lui-même reconnu que l'annonce des résultats s'appuyait sur des données incorrectes, marquées par de nombreuses irrégularités. Il a admis ne pas avoir eu le temps de rectifier la plateforme électorale nationale, reconnaissant ainsi l'usage de données frauduleuses pour afficher les résultats.
Venancio Mondlane qui s'exprimait donc hier. Christina, comment les autres partis d'opposition ont-ils réagi à cet appel à l'unité?
Première réaction, celle de la Renamo, le parti historique de l'opposition, le même que Mondlane avait quitté pour fonder le Podemos. Mais la Renamo ne semble pas lui en tenir rigueur. Elle se dit prête à collaborer avec le Podemos en utilisant tous les moyens internes comme externes pour sauver la démocratie à tout prix. Le Renamo sera donc aux côtés de Podemos dans la rue pour une nouvelle journée de mobilisation prévue demain.
Et dans ce climat tendu de crise électorale, merci Christina Okello. Le bilan s'alourdit, les ONG locales rapportent désormais 10 morts. J'ajoute que le président sud-africain Cyril Ramaphosa salue la publication des résultats préliminaires de ces élections. Dans un communiqué, il a félicité Daniel Chapo, le président élu, et son parti, le Frelimo. Le nord du Togo, une nouvelle fois en proie à une incursion de groupes armés. Voilà 3 ans que des villages situés dans la préfecture du Gbenja, l'ouest, sont régulièrement attaqués. Cette fois, c'est celui de Mike Bongu qui a été à théâtre de cette nouvelle vague de violence. 8 victimes sont à déplorer et pour le moment, aucune revendication, même si tous les regards se tournent, Sabine Mellier, vers le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
L'incursion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Selon plusieurs villageois, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué de sang-froid 8 personnes. Le propriétaire d'une maison qui abritait des déplacés d'un village voisin pour échapper à l'insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C'est la 2e fois en moins de 2 semaines que le village de Malbongu subit l'assaut des groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Aucune victime n'avait été déplorée. Il ne se passe pas une semaine sans incident, c'est impossible, confie un habitant de la zone de Gbenja l'Ouest. Ces derniers mois, cette zone est devenue l'épicentre d'incursions des groupes armés, contraignant de nombreux villageois à quitter leur maison à la recherche de sécurité dans des villages voisins. Les déplacés internes sont en constante augmentation. Conséquence, les champs sont abandonnés et les activités agricoles complètement paralysées.
Au Soudan, les bilans humains se précisent après les massacres dont sont accusés les paramilitaires FSR du général Emeti contre plusieurs villages de l'état de Jezira. Si l'accès au terrain est impossible et les communications coupées, des sources locales évoquent des centaines de victimes. L'Organisation des médecins soudanais pour les droits humains évoque au moins 124 morts et des centaines d'autres blessés. Elle réclame l'ouverture d'enquêtes. Rania Suleiman est l'une de ses membres.
C'est un massacre, un énorme massacre. Les forces de soutien rapide ont encerclé les villages et ont commencé à tuer des civils désarmés. Ils tuent de sang-froid. La plupart des victimes sont des personnes âgées, des femmes, des enfants. Ils tuent les hommes sous les yeux de leurs enfants. Ils violent les femmes sous les yeux de leurs maris et de leurs pères. Ils humilient, ils bafouent la dignité humaine. Les forces de soutien rapide pillent également les maisons, quoi que vous possédiez, de l'or, de l'argent, ils emportent tout ce que vous avez. Je n'ai rien vu de pire depuis le début de la guerre avec de telles images de gens enterrés en masse. Nous avons besoin d'une enquête. Il faut que ces gens rendent des comptes.
Rania Suleiman, jointe par Florence Maurice, et selon le syndicat des médecins soudanais, le degré de violence est tel que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le syndicat appelle les Nations Unies à faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs. D'autres combats, cette fois dans l'est de la République démocratique du Congo, cela malgré le cessez-le-feu demandé par l'Angola. Violence encore hier entre rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et milices Oisalendo, ces groupes armés pro-gouvernementaux. C'était dans plusieurs villages du territoire de Walikale, situé à un peu plus de 180 km au sud-ouest de Goma, une zone particulièrement riche en minerais dans la province du Nord Kivu. Détail de notre correspondant, Héritier Baraka.
Selon des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont attaqué simultanément plusieurs villages du groupement de Kisimba, dont les villages de Minjenje et Malemo, qui sont passés dans les mains des rebelles. Ces combats violents ont occasionné des déplacements vers la ville de Pinga. Des centaines d'habitants, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés en masse dans la soirée d'hier sous une pluie battante, selon la société civile locale. Dans leurs offensives, les rebelles du M23 ont aussi pris contrôle des villages de Katobo, Luola, Mbukuru et Mukohoa. Selon des sources sécuritaires, ils chercheraient désormais à prendre la ville de Pinga, base importante de l'armée, et ses alliés les RDCR, où se trouve un aérodrome. Au moins une dizaine de civils ont été tués depuis le début de la semaine dans ces combats, toujours selon des sources sanitaires dans la région. L'Angola avait condamné en début de la semaine la violation du cessez-le-feu par les M23. Des sources proches de l'AFC M23 disent ne pas être liées à ce cessez-le-feu n'ayant pas été associé avant l'annonce de cette décision. Héritier Baraka, Goma, RFI.
La page sport de ce journal. Jamais un homme n'avait avalé les un peu plus de 21 km d'un semi-marathon autant rapidement. L'Éthiopien Yomif Kejelcha a franchi la ligne de celui de Valence ce matin en 57 minutes et 30 secondes, battant ainsi la précédente marque mondiale d'une seconde appartenant à l'Ougandais Jacob Kiplimo, qui date de 2021. Du football, avec le portrait de l'un des plus jeunes entraîneurs au monde, Alexandre Lafitte, pas encore à la trentaine, est déjà sur le banc du stade d'Abidjan, que le Français compte bien faire briller à nouveau. Le stade qui affronte ce dimanche en championnat le Sol FC, l'occasion pour Youen Gourlet de retracer le parcours atypique d'Alexandre Lafitte.
À seulement 27 ans, le coach français passé par le Paris FC féminin et la PSG Academy a réussi à s'imposer au sein d'un club qui était alors relégable à son arrivée en janvier 2023.
On parle pas d'âge, parce que à partir du moment où le joueur vous lui donnez du respect, vous lui donnez un sens à un projet et qu'il ressent qu'il peut progresser, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Quel que soit l'âge, après, il faut avoir une certaine forme de charisme, il faut savoir mettre en place des règles, mettre en place un projet.
Et en quelques matchs, la mayonnaise prend, le stade d'Abidjan se sauve et termine 8e. La saison d'après, Alexandre Lafitte hisse son équipe à la 2e place du championnat, avant de la qualifier fin septembre pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine, un parcours de rêve et des joueurs emballés par le profil de leur entraîneur, Akaïssis, et milieu de terrain au stade d'Abidjan.
On est épanoui sur le terrain, c'est le plus important pour un footballeur. Donc il crée cette plateforme-là, et nous, voilà, on arrive à s'exprimer, c'est le plus important.
Ça fait quoi d'avoir un entraîneur aussi jeune ?
Il nous comprend, on se comprend, parce que voilà, le message qu'il véhicule passe facilement, parce que voilà, il se met dans la peau du footballeur que nous sommes.
L'un des plus jeunes entraîneurs de première division au monde s'apprête à affronter des clubs référents sur le continent, Orlando Pirates et Al Ahly, le tout en essayant de jouer sur les deux tableaux, car en Ligue 1 ivoirienne, son équipe n'a pris que 6 points en 4 matchs. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Du basket également dans cette édition d'Afrique Midi, du côté de Douala qui accueille un 4e tournoi qualificatif à la balle, la Basketball Africa League. La Kadji Sport Academy, équipe locale, y participe pour la première fois aux côtés de clubs congolais, gabonais ou équato-guinéens. Objectif de la formation camerounaise, accéder aux phases finales de la compétition. Rodrigue Siaken, coach adjoint de la KSA, déroule les ambitions de son équipe.
On a fait une bonne préparation dans le sens technique et physique. Elle s'est déroulée sur un mois. Nous avons l'appui de la Fédération Camerounaise de Basket qui nous a beaucoup accompagnés dans cette préparation et qui continue de nous accompagner pour que nous puissions atteindre le dernier carré qui est déjà aussi notre ambition et même l'ambition de notre président, l'ambition de l'équipe. La qualification pour le tournoi final de la balle va représenter pour la KSA le Saint Graal. Ça a été le rêve d'un jeune président qui est Kenneth Kadji. Dès la création de ce club KSA Basket, c'était le premier objectif qu'il a mis devant. Même quand on approchait les joueurs pour adhérer au club, c'était qu'on veut jouer la balle. Donc il a essayé de mettre les meilleurs joueurs dans l'équipe pour pouvoir atteindre ce niveau déjà, pour se qualifier au niveau local. Et atteindre la balle sera le Saint Graal et ça sera un rêve.
Rodrigue Siaken au micro de Joël Wadem de Douala à Yaoundé, où s'est refermée hier la 28e édition du Festival des Écrans Noirs. Une semaine au cours de laquelle une centaine d'œuvres, films, longs et courts-métrages, des documentaires, également des séries et des web-séries étaient en compétition. Et parmi les plus récompensés, le réalisateur camerounais Ena Scott a reçu 4 prix, dont celui de l'Association africaine des critiques d'art. Richard Onanena est à Yaoundé pour RFI.
Son film Half Heaven, dans lequel l'actrice camerounaise Cindy Emadé partage l'affiche avec le Nigérian Chidi Mokeme, a été salué par la critique. Il rafle 4 prix. Ena Scott a dédié ses prix aux jeunes cinéastes, leur rappelant que tout est possible pour celui qui ne désespère pas. Fin de citation. L'Écran d'or, la plus importante distinction du festival, revient à Kitou Double de la Marocaine Rachida Saadi. Farah El Fassi, l'actrice principale, remporte le prix de la meilleure interprétation féminine, méritée, selon Thierry Edjegué, membre du jury.
L'histoire est assez bien écrite. Les autres aspects, que ce soit le son, l'image, la mise en scène, le montage, l'excellent jeu d'acteur ne pouvait que conduire à ce prix-là.
Divana Kate, réalisatrice congolaise qui prenait part au festival pour la première fois, n'a pas gagné de prix. Dévancée par le Camerounais Ena John Scott dans la catégorie meilleur film d'Afrique centrale, elle estime que le plus important, c'est que le message de son film voyage.
Mon film, Kozela, autrement dit Attente, parle de la condition mentale dans laquelle on se retrouve parfois lorsqu'on attend quelque chose qui ne vient pas. Le fait que le film soit sélectionné ici, pour moi, c'est déjà une consécration.
Cette 28e édition du festival Écran Noir s'est déroulée dans un contexte un peu morose, avec des salles noires peu fréquentées. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et la fin de ce journal en musique avec le dernier titre de Manifeste, l'une des stars du rap ghanéen. Puff Puff, une ode à la résilience qui confirme le talent de parolier de celui que la presse britannique qualifie de meilleur rappeur du continent africain. Olivier Roger s'est plongé dans son univers.
Lorsque l'on est ghanéen, le highlife est une seconde nature, le rap une vocation et le jazz un amour durable. Manifeste réunit les trois dans ses trop rares compositions. Puff Puff, Keep the Fire Burning, ou Garde la Flamme en français, est une brillante démonstration de ses talents de compositeur et de parolier. Ses textes, où il est souvent question des difficultés, surmontables ou non, de la vie quotidienne, éblouissent les critiques anglaises, qui l'ont élu meilleur rappeur du continent. Flatteur et réducteur à la fois, tant son talent dépasse les genres musicaux. Manifeste, qui a collaboré par le passé avec la star de la soul américaine Erykah Badu, le compositeur britannique Damon Albarn ou encore le célébrissime nigérian Burna Boy, ne rechigne jamais aux expériences de fusion musicale. Il a sorti le mois dernier un single avec les jazzmen anglais d'Ezra Collective, de quoi encore renforcer son aura auprès de la jeune génération de musiciens européens. Morning tea, collect my thoughts like church offering. Dress to impress the fit, that be marketing. Silence deafening, the ringtone bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining. Streets keep calling, somewhere in between the dusk and the morning. Sunny in the skies. Un sujet signé Olivier Roger du service culture de Radio France Internationale. Vous êtes à l'écoute d'Afrique Midi, il est 13h47 ici à Paris.
Afrique Midi.
À suivre dans le prochain quart d'heure, les chemins d'écriture de Tirthan Karchanda qui nous présente le premier roman de l'autrice britannique Eleanor Shearer, les têtes d'affiche de Denise Epoté, l'Algérienne Asmala Meshmenjeli et la Congolaise Gaëlle Matondo. Et puis nous partons à la rencontre de l'artisane parisienne Marion Mésange dans la chronique 100% création. La chronique littéraire « Chemin d'écriture » de Tirthan Karchanda. Bonjour Tirthan Kar.
Bonjour à tous et à toutes.
Et au programme ce dimanche, Tirthan Kar a un premier roman au titre particulièrement poétique.
C'est un titre à la fois poétique et programmatique. Il dit la quête de la liberté qui est le thème du roman. L'île dans le titre renvoie à l'espace caribéen où se déroule l'action du roman. Son auteur, Eleanor Shearer, est britannique, d'origine caribéenne. Son roman a partie liée à son héritage caribéen, mais aussi à son intérêt pour l'histoire de cette région. Eleanor Shearer.
I'm a Je suis une écrivaine d'origine métisse. Dans les années 50, mes grands-parents maternels ont quitté la Caraïbe pour venir s'installer au Royaume-Uni. Ils faisaient partie de ce que les historiens appellent la Windrush Generation. J'ai grandi chérissant mon héritage caribéen, qui est à l'origine de mon vif intérêt pour l'histoire de cette région. Quand j'ai eu 16 ans, je me souviens d'être allée voir, avec ma mère, une exposition sur l'abolition de l'esclavage dans les îles caribéennes. C'est en regardant cette exposition que j'ai découvert que dans les années qui ont suivi la fin de l'esclavage, plusieurs femmes se sont lancées dans la recherche de leurs enfants revendus par leurs maîtres. Cette histoire est restée longtemps gravée en moi comme un symbole de la résistance à l'esclavage.
Et Thierry Tancar, l'action de ce roman se déroule au 19e siècle.
Nous sommes à Providence, une plantation dans l'île de la Barbade. L'action se déroule en l'an de grâce 1834, une année historique lorsque le Royaume-Uni proclame la fin de l'esclavage dans les colonies. Après 2 siècles d'horreurs perpétrées contre les corps et les esprits, l'esclavage touche à sa fin. Certes, seulement en apparence dans un premier temps. Comme on le comprendra en plongeant dans le récit de Rachel, protagoniste du roman. Au plus noir de la nuit, Rachel courait. Ainsi débute le récit.
Et pourquoi Rachel court-elle ?
C'est parce qu'elle est désemparée. En fait, l'abolition ne fut que théorique. Le Parlement britannique, dont dépendait l'île de la Barbade à l'époque, venait de décréter que pendant les 6 années qui allaient suivre, les esclaves allaient devoir travailler gratuitement pour leurs anciens maîtres. Un arrangement cynique qui ne convient pas à Rachel, qui attendait ce jour d'émancipation avec impatience. Alors, elle décide de s'enfuir, profitant des émeutes qui éclatent à l'annonce de cette émancipation reportée.
Mais alors, tire ton quart, où va Rachel ?
Elle va sur la trace de ses enfants qui lui avaient été arrachés au fil des années pour être revendus dans d'autres plantations. Dans la postface de ce roman, l'auteur explique comment elle s'est inspirée d'un récit oral découvert à l'exposition qu'elle avait visitée avec sa mère. Ce récit racontait l'histoire d'une certaine mère Rachel qui avait traversé à pied l'île d'Antigua après l'abolition de l'esclavage pour retrouver l'une de ses filles. Comme sa modèle, la Rachel du roman est elle aussi engagée dans une lutte de résistance contre le système esclavagiste qui avait détruit les familles.
Mais alors Rachel finira-t-elle par trouver ses enfants ?
Disons qu'elle finira par trouver leur trace, même si le recollage des morceaux de la famille dispersés par l'esclavage s'avère difficile à réaliser. La force d'Eleanor Scherer est d'avoir su mêler avec inventivité l'imagination et l'histoire qui lui permet de dépasser les stéréotypes pour penser l'esclave comme à la fois victime et acteur de son destin. Eleanor Scherer.
J'ai bâti ce roman autour des personnages qui sont les oubliés de l'histoire officielle. Les historiens, quand ils en parlent, c'est toujours à partir d'une grille des lectures blanche, donc dominante. C'est une perspective qui n'est pas très fiable quand il s'agit de dire l'intériorité des dominés. Même si on a beaucoup lu sur le sujet et interrogé une multiplicité de témoins, on ne peut pas faire autrement que de s'appuyer sur l'imagination pour combler les trous dans le narratif officiel.
C'est en s'appuyant sur son imagination puissante et poétique qu'Eleanor Scherer fait entendre derrière l'histoire officielle les voix tues des dominés.
La liberté est une île lointaine. Le premier roman d'Eleanor Scherer présenté par Thierry Tancar Chanda. Merci Thierry Tancar. Il est 13h52 ici à Paris. Les têtes d'affiche de Denise Epoté. Bonjour Denise.
Bonjour Nemo.
Votre première tête d'affiche est originaire d'Algérie, diplômée de la faculté des sciences économiques et gestion de la faculté d'Alger. Asma Lamesh Menjeli possède une licence en finance en 2020 en pleine crise sanitaire. Elle cofonde avec son mari Straplife, une start-up dans le secteur de l'e-santé pour accompagner les personnes vulnérables dans la prise de leur traitement.
Transformer les défis du quotidien en opportunités, c'est ce qui motive Asma Lamesh Menjeli. Conçue durant la crise du Covid, période durant laquelle les seniors étaient isolés de leurs proches aidants, la solution Straplife apporte un soutien essentiel pour le suivi des traitements médicaux. Elle permet non seulement de rappeler les prises de médicaments, mais aussi de fournir une vue d'ensemble des soins et des problématiques du patient avec des accès partagés pour les aidants et les soignants. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application peut également anticiper et prévenir les interactions médicamenteuses pour les personnes âgées ou vulnérables. D'où le nom Straplife pour attacher à la vie. Pour les non-voyants, Asma Lamesh Menjeli et son équipe ont mis au point StyCare a collé sur les boîtes de médicaments. L'autocollant utilise un système de forme géométrique pour permettre aux personnes malvoyantes, malentendantes ou encore peu ou pas alphabétisées de suivre correctement leurs prescriptions médicales. Autre innovation de la start-up, LifeCard, une carte médicale d'urgence qui contient un QR code donnant accès aux premiers soins d'urgence. Stripe Life a figuré parmi les 5 finalistes de l'édition 2023 de Silver Echo à Cannes. Lors de la semaine L'Afrique des solutions, tenue à Paris fin septembre, l'innovation a remporté la médaille du mérite.
Et votre seconde tête d'affiche, Denise, est franco-congolaise, interprète de conférences formées aux États-Unis et à Londres. Gaëlle Matondo a mis au point en 2022 YOMS, une application pour l'apprentissage des langues africaines dans le but de rendre plus inclusif le secteur des headtech.
YOMS est un clin d'œil à ses origines congolaises, où vivent les Yombé. L'application vient combler un manque, car jusqu'ici, seules les langues latines étaient présentes. Depuis un téléphone mobile ou un ordinateur, l'application propose 6 langues africaines, le Lingala, le Wolof, le Swahili, le Lari, le Bambara et le Yoruba. Le Lingala occupe la première place de l'offre linguistique qui, à terme, devrait en comprendre 9. Il suffit de 30 minutes d'apprentissage par jour. Un apprentissage ludique qui, selon Gaëlle Matondo, permet de démocratiser l'apprentissage des langues africaines grâce au numérique en répondant aux besoins de ce marché en pleine émergence. Pour cette innovation, elle a été lauréate de la French Tech Tremplin Promo 2022. La même année, elle a été élue entrepreneur féminin France Active pour la région Centre-Val de Loire. Et en 2023, elle figurait parmi les femmes entrepreneurs Orange. Au mois de mai, au sein de la délégation française, Gaëlle Matondo a participé au e-learning Africa à Kigali.
C'était les têtes d'affiche de Denise Epoté. Merci Denise, vous les retrouvez sur l'application RFI Pure Radio. La chronique 100% création pour refermer cette demi-heure. Aujourd'hui, Maria Afonso a rencontré Marion Mésange, artisane designer, tourneuse sur métal et fabricante de luminaires. Ses créations s'inspirent de ses lectures et de ses expériences. Cette année, et en tant que lauréate 2024 du prix de la jeune création métier d'art, elle expose pour la première fois ses œuvres au Salon international du patrimoine culturel à Paris, au Carrousel du Louvre.
La création m'accompagne et des fois, elle est moins présente.
Marion Mésange, artisane designer, tourneuse sur métal et fabricante de luminaires de la marque éponyme.
Depuis l'âge de 15 ans, je fais quand même des études dans le secteur de l'art et de l'artisanat. La création, c'est une fidèle amie.
Marion Mésange est née en banlieue parisienne. Elle a grandi dans un environnement familial propice à l'imagination. Sa passion pour l'artisanat a démarré dès son plus jeune âge, au contact d'un père bricoleur qui l'a initié à divers matériaux dans leur atelier familial. Ses expériences, découvertes des matières, l'ont naturellement conduite à intégrer l'école Boulle à Paris, où elle découvre le tournage d'art. Après 5 années d'apprentissage intense, elle obtient son diplôme des métiers d'art en section tournage, effectue des stages dans différents ateliers, apprenant ainsi les rouages du mobilier et des luminaires sur mesure. Passionnée par les récits d'exploration, Marion Mésange nourrit son imaginaire de ses lectures.
Ma première collection a été ma collection de bougeoirs. C'est après les avoir dessinés que je me suis rendu compte que c'était lié à toutes mes lectures. Je suis assez passionnée par les récits d'explorateurs qui ont quitté un circuit classique pour s'intéresser à des terres inhospitalières ou des animaux, etc. Maintenant, je me rends compte que c'est vraiment ma base. La lecture nourrit mon imaginaire. Quand je dessine des pièces, ça se connecte. Maintenant, je sais que c'est comme ça que ça marche.
Le choix des matériaux est important pour Marion Mésange, qui s'est tournée vers l'aluminium. Ce dialogue entre matière et émotion donne naissance à des créations sans pareil.
Je dis que je suis en train de me constituer une bibliothèque du froid. La glace, la banquise, les explorations sur ces terres-là. Je me suis énormément orientée sur le travail de l'aluminium. C'est une matière qui est catégorisée comme pauvre et qui n'est pas du tout dans le secteur de l'artisanat d'art, ou très peu. Trouver un langage plastique avec cette matière qui me permette de la dissocier des codes actuels, complètement l'anoblir, et en même temps voir si ça peut porter mes lectures. Et s'avérer que la technique qu'il y a sur Léonie ou la Pixie Gris, on est tout de suite dans cette ambiance un peu banquise. C'est la première chose que les gens me disent. Ça fait froid, on dirait du givré. Souvent, tout s'imbrique un peu.
Retrouvez l'univers de Marion Mésange sur RFI.fr chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et 100% création est également sur les réseaux sociaux. Retrouvez en vidéo Marion Mésange sur Instagram et sur Facebook. 13h58 ici à Paris, c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi. Merci à Alice Ménard à la réalisation, à Cécile Périllard attachée d'édition, à Esdras Dikoumana à la rédaction en chef. Dans un peu plus d'une minute sur RFI, le retour de l'actualité internationale. Il sera 14h à Paris.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde.
Demain.
Se soigner quand on est porteur d'un handicap sensoriel, quels sont les obstacles? Comment améliorer l'accès aux soins?
Mardi.
L'insuffisance rénale résulte d'une incapacité des reins à filtrer correctement les déchets métaboliques du sang. Quand se faire dépister? Comment se passe la prise en charge?
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
BPM, c'est votre nouveau rendez-vous dédié à l'actualité musicale internationale. Au rythme des bonnes pulsations du monde, on va vibrer et apprendre des sons qui résonnent aux quatre coins du globe et pourquoi pas aussi se mettre au diapason.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.